Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Vous avez tout sacrifié pour être ici. Pour faire partie de ce projet. La première colonisation interstellaire à grande échelle.
RTL.
Faut que tu reviennes tout de suite. Il faut que tu...
Chérie, calme-toi. Tu vas te calmer, d'accord?
Ne dis pas de me calmer.
Je t'entends plus.
Tout ça pour commencer une nouvelle vie.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Alien Covenant, c'est le titre du film de Ridley Scott sorti ce matin. Sixième volet de la saga des Aliens, film dont RTL est partenaire. Et pour découvrir tous les secrets de cette saga, Pascal Pinto est avec nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste du cinéma et des effets spéciaux. Vous avez rencontré Ridley Scott et plusieurs membres de ses équipes, maquilleurs, maquettistes. Vous nous raconterez tout ça tout à l'heure. Ridley Scott qui était hier matin dans Laissez-vous tenter au micro de Stéphane Boutsock. Écoutez comment il raconte son retour aux commandes du vaisseau Alien.
Dans les trois films qui ont suivi, personne n'a répondu à ces questions. C'est quoi ce vaisseau échoué sur la planète? Qui est le type assis dans le fauteuil? Est-ce le pilote? Pour quelles raisons ont-ils laissé les œufs derrière eux? Je me suis dit, mais c'est dingue. Et j'ai toujours gardé ça en tête comme une frustration. Et puis un jour, je suis allé à la Fox en leur disant, on peut remettre ça si vous voulez.
Et la Fox a dit oui et le film est sorti ce matin. Pascal Pinto, il est comment? Ridley Scott, c'est un vieux monsieur tranquille, quelqu'un de charismatique, un sale caractère.
C'est un jeune cinéaste de près de 80 ans qui est plein de dynamisme et d'idées et qui a envie plus que jamais, je crois, de faire fructifier toutes les licences qu'il a créées. Enfin, il a créé Alien et il a créé aussi Blade Runner, dont un nouvel épisode va sortir bientôt.
Magnifique film. Il est charismatique?
Oui. Oui, tout à fait. Et il est un petit peu inquiétant aussi, dans le sens où, quand il décide de faire quelque chose à la dernière minute, il le fait. Quoi qu'il arrive et quoi qu'il ait été convenu de faire auparavant.
D'accord. Ridley Scott, le réalisateur d'Alien, est-ce que c'est lui aussi qui a écrit le scénario du premier Alien?
Non, c'était un jeune étudiant qui s'appelait Dan O'Bannon, qui venait à peine de sortir de l'université du département de cinéma, des études de cinéma de l'Université de Californie du Sud, et qu'il avait intitulé à l'époque Star Beast, puisqu'on était juste après la sortie de Star Wars, et donc Star Beast, ça sonnait bien.
Enfin, Beast pour la bête, c'est ça?
Beast pour la bête, oui, la bête des étoiles.
Dites-moi, français est nul et le titre anglais moyen, on va dire ça,
oui,
comme ça.
Oui, absolument, ça n'aurait pas fait peur à un grand monde. Ouais. Et je dois dire qu'il s'est inspiré aussi d'un film très peu connu qui s'appelle It, the Creature from the Terror from Space, voilà, c'est ça, Terror from Space en anglais, ouais, qui est un vieux film des années 50 dans lequel il y a déjà un monstre dans une fusée à bout pointu, argenté, comme on les aime, dans ces années-là, ouais, et qui décime l'équipage, effectivement.
Est-ce que ce scénario va bluffer le producteur?
Alors, Au départ, non. David Giler, qui est le producteur, trouve que c'est un scénario assez médiocre, en fait. Et il faut dire que tous les poncifs des films d'horreur classiques dans lesquels une quinzaine de personnes se retrouvent enfermées dans un manoir hanté avec des éclairs comme ça qui passent à l'extérieur et se font assassiner les uns après les autres sont dans le script. La maison hantée devient le vaisseau spatial. Mais c'est quand il arrive à la séquence donc du chest buster, c'est-à-dire le moment où le bébé alien crève la poitrine de John Hurt, l'acteur John Hurt, et s'enfuit, que tout d'un coup il se dit, ah là, il y a quelque chose à faire. Donc c'est ce qui va l'amener à s'intéresser à ce script et à se rendre compte que c'est vraiment quelque chose d'original.
Ce qui l'intéresse, c'est la bête qui va grandir, le monstre qui grandit dans l'humain, c'est ça en fait la force, oui, de l'histoire et la nouveauté.
Oui, c'était l'idée très astucieuse de Dan O'Bannon, non pas de montrer un monstre classique qui a déjà sa propre existence quand les humains le rencontrent, mais un parasite, un véritable parasite, basé sur des parasites qui existent dans le monde animal, des insectes qui crèvent la surface de la peau et qui vont se développer à l'intérieur du corps. Donc il est parti de quelque chose de réel qui nous répugne tous, et c'est pour ça que le film a un tel impact.
Mmh. Pascal Pinto, vous publiez Effets spéciaux, deux siècles d'histoire aux éditions Rajlon, c'est une somme, il est impressionnant ce livre, magnifique. Ça vous a demandé combien d'années de travail?
Plus de 15 ans de travail. Ouais,
c'est vraiment la Bible des effets spéciaux, on peut dire ça. Est-ce que Alien, c'est un film marquant en termes d'effets spéciaux? Le premier Alien, c'est 79, c'est ça?
Oui, absolument. Oui, c'est un film marquant parce que Ridley Scott, qui avait déjà une solide expérience de réalisateur de publicité, connaissait toutes les techniques du cinéma par cœur, et il avait en plus, déjà à cette époque, un œil d'esthète. C'est quelqu'un qui connaît par cœur la peinture classique, qui aime la photo, qui s'intéresse à la bande dessinée, etc. Il a toujours su composer des images magnifiques. Et il a pu, grâce à Alien, mélanger à la fois ses connaissances des techniques de cinéma et son désir de faire de très belles images, et il a innové constamment.
Et d'ailleurs, parmi les sources d'inspiration de Ridley Scott, il y a le magazine de BD Metal Hurlant. Pourquoi ? Qu'est-ce qui l'inspire dans cette BD ?
Eh bien, Metal Hurlant, c'est un magazine de science-fiction qui a été la nouvelle vague de la SF. C'est un magazine français qui a été fondé entre autres par Jean-Pierre Dionnet. Et dans ce magazine, on voyait une nouvelle approche. On voyait des bandes dessinées signées Giraud, donc Jean Giraud, Moebius, avec un nouveau style d'approche des vaisseaux spatiaux, des costumes de cosmonautes, etc., d'astronautes.
Et même des cases. On explosait les codes de la BD dans
absolument.
Metal Hurlant.
Ouais. Absolument. Et donc, il était sensible à cette nouvelle approche. Mm-hmm. Il savait qu'il y avait un moyen de dépoussiérer tout cet univers de science-fiction un peu clinquant, celui des clichés de la Barbarella des années 60, avec des astronautes avec des bulles de verre sur la tête et des combinaisons argentées. Et donc, il a complètement remis, enfin inversé tous les codes de ce genre qu'était la science-fiction.
Ridley Scott qui va faire aussi appel à un sculpteur suisse.
Alors oui, Hans Rudi Giger, qui est un Suisse-Allemand, qui, dès les débuts de sa carrière, a été un grand mélangeur de
matière,
caractéristiques
ouais.
organiques et mécaniques. Il a inventé la biomécanique, puisque dès ses premiers dessins, on voit des choses assez étonnantes, des humains sur lesquels on peut voir des greffes de parties un peu insectoïdes, des tuyaux, des tubulures. Il a participé à des vidéoclips dans lesquels on voit notamment, je me souviens, un espèce de petit chien, un petit teckel qui est revêtu d'une combinaison biomécanique argentée du plus bel effet.
Et donc c'est lui qui dessine la créature ?
Alors c'est lui qui dessine la créature, mais il la dessine sans savoir qu'elle va donner à Ridley Scott l'idée de faire appel à lui pour Alien. Il dessine notamment un monstre qui s'appelle Necronome 4, sur une peinture qui s'appelle Necronome 4, qui a une tête extrêmement allongée, des espèces d'épines qui lui sortent du dos. Et quand Ridley Scott verra cette peinture, il saura qu'il a trouvé celui qui pourra créer le monstre.
Pour ceux qui n'ont pas vu Alien, et c'est bien dommage parce que c'est une formidable série de films, il ressemble à quoi cet alien ? L'alien de Ridley Scott.
Alors, c'est justement ce que Ridley Scott a essayé de cacher pendant pratiquement les trois quarts du premier Alien. C'est-à-dire qu'il en a montré des petits bouts seulement.
C'est vrai, ouais.
Il a une tête très allongée, légèrement courbée, qui dépasse beaucoup de sa poitrine.
Il a des
qui
dents.
Est plongée par, il a une double mâchoire.
Oh. Bien acérée.
Et très acérée. Il a des dents, des mains pardon, à six doigts. Donc il a un double pouce, donc encore plus de doigts pour vous attraper, pour vous faire des misères. Et puis il est surtout très très grand et très fin et très très, très fort. Et il grandit à toute allure, ce qui est quand même très très déconcertant.
Et alors ce qui est drôle, c'est que on peut même trouver du Alien et du Ridley Scott dans un petit village de Suisse qui s'appelle Gruyère, parce que c'est dans la région d'origine du sculpteur suisse-allemand dont vous parliez. Et alors c'est assez improbable, entre deux restaurants de fondue, on tombe sur un musée Alien et en face du musée sur un bar où tout le décor est, on a vraiment l'impression d'être dans le vaisseau spatial avec des monstres qui mangent au-dessus de
votre tête. Faut que je parte en week-end avec vous, Thomas.
Ah oui, mais c'était improbable, vraiment, c'est très étonnant et c'est une visite à faire dans cette région de la Suisse. On va continuer de raconter la saga Alien et notamment l'originalité pour un film de SF, de science-fiction, avec une femme héroïne. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Laisse-moi sortir !
La curiosité est un vilain défaut.
Accroche-toi !
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est l'histoire d'un des plus grands succès du cinéma mondial que l'on vous raconte dans La Curiosité, l'histoire de la saga Alien, alors que le sixième volet, Covenant, est sorti ce matin dans toute la France. Et c'est le spécialiste des effets spéciaux et du cinéma, Pascal Pinto, qui nous raconte les coulisses de cette saga, et notamment du tout premier film qui a été réalisé en 79 par Ridley Scott. Et l'une des difficultés, on apprend de ce tournage, ce sont les maquettes. Et par exemple, celle du vaisseau, qui doit être absolument immense.
Alors c'était une très très grosse maquette qu'on devait suspendre par des chaînes tellement elle était lourde, et qui a été fabriquée par quelqu'un que j'ai déjà interviewé pour les besoins de mon livre, qui s'appelle Martin Bauer, qui est un maquettiste anglais, et qui m'a expliqué qu'à l'époque on avait recours à une technique qui s'appelait le scratch building, qui consistait à construire la structure du vaisseau spatial, et ensuite à prendre les petites maquettes du commerce, de tanks, d'avions de la Seconde Guerre mondiale, etc., et à détacher toutes les petites pièces en plastique pour habiller comme ça, très minutieusement, chaque millimètre de la coque du vaisseau spatial. Et au départ, donc, Ridley Scott avait envisagé ce vaisseau Nostromo comme une espèce de cathédrale avec quatre grandes tours flottant dans l'espace, puisque en fait, dans le film, le vaisseau est un vaisseau cargo, un vaisseau qui rapporte du minerai et d'autres denrées rares sur la Terre. Et Martin Bauer m'a raconté qu'un jour, alors qu'ils ont apporté un soin absolument incroyable à la fabrication de cette maquette, il voit débarquer Ridley Scott, qui examine la maquette sous tous les angles, qui leur demande une échelle, un burin et un marteau.
Non.
Il lui donne le burin, le marteau, l'échelle, et Ridley Scott monte sur son échelle et abat le haut des tours à grands coups de marteau, tout en sifflotant, et redescend d'échelle en disant « c'est mieux comme ça ». Merci les gars, et il s'en va. Donc imagine la tête des maquettistes.
C'est un caractère quand même, hein, Ridley Scott.
C'est un caractère.
Et un visionnaire, il savait ce qu'il voulait.
Il savait très précisément ce qu'il voulait.
Alors l'autre originalité du film, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le choix d'une héroïne. Ça n'était presque jamais arrivé dans les grandes sagas ou dans les grands films de science-fiction.
Très rarement, c'était généralement le commandant qui sauvait l'équipage. Et d'ailleurs, Ridley Scott joue beaucoup avec ça dans le premier film, puisque on s'attend à ce que le commandant s'en tire, et etc. Et c'est lui qui meurt pratiquement l'un des premiers. Donc à partir de là, tout le reste de l'équipage n'a plus de chef et est donc complètement désarçonné. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'origine, le personnage de Ripley, que joue Sigourney Weaver, était un homme. Et c'est Ridley Scott qui a décidé en fait d'intervertir les rôles et puis de faire en sorte que ce soit une héroïne qui se retrouve toute seule confrontée à la bête.
Parce qu'il trouvait que l'épreuve était plus forte, que ça faisait un personnage plus fort d'avoir une femme dans ce rôle,
absolument,
de chef de bande.
Absolument, que son endurance serait plus crédible si c'était une femme.
Oui, et puis il y a aussi, quand on voit la bête, quand on voit la créature, il y a quand même une dimension... presque érotique, en tout cas sexuelle, dans cette créature, et donc dans sa relation avec le personnage de Ripley.
Oui, dans les œuvres de Giger, donc le designer du monstre, on retrouve évidemment plein de formes qui font référence directe à l'anatomie humaine, et notamment aux organes génitaux. Et effectivement, la tête de l'alien a un côté phallique, les œufs de l'alien évidemment font penser aussi à l'anatomie féminine. Enfin, y a beaucoup de choses comme ça qui sont assez étonnantes, puisque aujourd'hui on a l'habitude, entre guillemets, du monstre d'alien, alors que c'est quand même quelque chose d'assez particulier.
Enfin, il fait toujours aussi peur aujourd'hui. Hein.
Ça, c'est
toujours autant.
Comment il s'est passé le tournage du premier Alien en 79? Est-ce que c'était un long fleuve tranquille ou est-ce que ça a été compliqué?
Ça a été compliqué, mais très exaltant. Tous les gens qui ont participé au film que j'ai eu le plaisir d'interviewer m'ont dit que c'était passionnant, par exemple, de voir Giger au travail, puisqu'il était vraiment directement là, dans les ateliers, à faire ses peintures à l'aérographe, hein, puisqu'il utilisait un espèce de micro pistolet à peinture qui lui permettait de créer ces effets de volume, d'ombre et de lumière qui sont extrêmement saisissants dans ces peintures. Mais il sculptait aussi. C'est lui, par exemple, qui a sculpté en grande partie le personnage qu'on appelle le Space Jockey. C'est l'extraterrestre fossilisé sur son fauteuil qu'on découvre dans le premier Alien et qui va servir à alimenter donc Prometheus, comme on le disait tout à l'heure. Mais il a aussi participé à la sculpture du costume de l'Alien, qui avait été fait de façon extrêmement simple, puisque c'était une tenue en latex noir, avec différentes parties qui se recouvraient les unes les autres.
Le latex noir, pardon, je vous interromps, mais j'ai lu ce matin, je crois que c'était dans Le Parisien, que la première femme de ce sculpteur suisse ne s'habillait qu'en latex noir, était assez impressionnante.
Voilà, alors j'imagine que le costume d'Alien a peut-être une seconde vie après.
Voilà, c'est ça.
Et donc, c'était une combinaison fabriquée de façon extrêmement simple. Par contre, la tête était un peu plus sophistiquée, puisque l'animation des doubles mâchoires avait été créée par un spécialiste des effets spéciaux qui s'appelait Carlo Rambaldi, qui est un Italien, un sculpteur qui a réussi à animer des sculptures en utilisant tout simplement des mécanismes comme les freins de vélo. C'est-à-dire qu'on appuie sur une gâchette et ça transmet le mouvement à l'autre bout. Et c'est grâce à ce principe des freins de bicyclette qu'il a réussi à animer la double mâchoire.
Ah, ça fait tout de suite moins peur. J'ai pensé à ça quand j'aime revoir pour la dixième fois les aliens. Ridley Scott qui avait un gros caractère. Vous nous disiez qu'il n'hésitait pas à casser la moitié de sa maquette de vaisseau spatial s'il n'avait pas ce qu'il voulait. Mais il ne se laissait pas faire aussi par les producteurs qui voulaient, par exemple, ajouter une voix off.
Dans Alien, il voulait ajouter des commentaires en sous-titres pour mieux expliquer les choses. J'ai dit, mais c'est quoi ce bordel? Si vous aviez cette chose qui vous courait après, vous sauriez ce qui se passe.
C'est pas faux. Il pouvait être colérique, Ridley Scott.
Oui, d'ailleurs, vous savez, le premier Alien a été fait pour un budget de 11 millions de dollars. Ce qui est très peu par rapport au budget actuel. Mais à l'époque, c'était une petite production. Par exemple, Star Wars, qui était considéré comme une petite production en 77, avait été lui aussi réalisé pour un budget de 11 millions de dollars. Donc, quand on a un petit budget tourné pratiquement en huis clos dans un studio en Angleterre, et que des producteurs associés viennent faire une petite visite dans le studio à l'impromptu, comme ça, à l'improviste, on peut imaginer que Ridley Scott a été très mécontent, et c'est la raison pour laquelle, en les voyant venir alors que ce n'était pas prévu, il a donné un coup de poing tellement violent dans le plafond du décor du vaisseau spatial qu'il l'a troué.
Alors, l'histoire de la saga Alien, c'est aussi, et c'est pour ça qu'on est très heureux de vous avoir avec nous sur RTL, Pascal Pinto, c'est l'histoire d'une évolution des effets spéciaux depuis 79. Il y a eu 6 films et les effets spéciaux ont évolué avec ces films, et c'est ce que vous racontez dans votre livre Effets spéciaux, publié aux éditions de La Bragelonne, c'est ça ?
Deux siècles d'histoire. Avec un S à histoire, parce qu'il y a les histoires de les aventures humaines des 60 plus grands spécialistes d'effets spéciaux qui racontent leur vie et leurs anecdotes.
Et vous allez continuer de nous raconter ceux de la saga Alien. À tout de suite sur RTL.
La curiosité, vous écoutez RTL. RTL. La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Vous êtes sûr de vous, capitaine ?
Comment ça ?
Mais bordel, on sait même pas ce qu'on va trouver !
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Alien Covenant, c'est le titre du sixième volet de la saga sorti ce matin, film réalisé par Ridley Scott qui signe son troisième Alien. On vous raconte l'histoire de cette saga.
Même à la radio, ça fait peur.
Avec Sidonie Bonnet qui a la trouille, que les choses soient claires, et avec le spécialiste des effets spéciaux, Pascal Pinto. Vous nous l'avez dit, le premier Alien en 79 était novateur, avec pour Ridley Scott en tête la référence du film de Stanley Kubrick, 2001 l'Odyssée de l'espace. Est-ce qu'il y a pensé ?
Il y a pensé dans le sens où il y a là aussi dans Alien un ordinateur qui pilote le vaisseau et qui est celui qui reçoit l'appel de détresse qui va inciter les astronautes à aller voir ce qui se passe sur une planète au lieu de continuer tranquillement leur chemin et de rentrer chez eux.
Oui, parce que dans leur mission, ils ont l'obligation, c'est ça, d'explorer toute possibilité de vie extraterrestre. Quoi.
Tout à fait. Et d'ailleurs, on sous-entend que la compagnie minière Weyland-Yutani, qui est celle à laquelle appartient le vaisseau cargo, en fait, a intérêt à envoyer les gens, ses employés, à la découverte des aliens. C'est quelque chose qu'on va sous-entendre plus tard dans la saga et qu'on va exploiter de différentes
manières. Donc il y a un ordinateur de bord qui ne s'appelle pas Al,
qui s'appelle Maman. Mother. Oui, c'est ça.
Okay.
Parmi les scènes marquantes, d'ailleurs, je me la suis revisionnée pour le plaisir et j'avais vraiment du mal à la regarder. Elle est incroyable. C'est ce moment où la créature sort du corps de Kane. Vous nous rappelez qui interprétait ce personnage, vous nous l'avez dit tout à l'heure.
Alors, c'est John Hurt, l'acteur anglais John Hurt.
Et racontez-nous cette scène, il faut la décrire. Ça commence par un déjeuner, on se marre, il y a une bonne ambiance dans le vaisseau spatial.
Et puis, tout d'un coup, donc, tout l'équipage est réuni autour de la table. Il y a eu une séquence un petit peu inquiétante auparavant. Enfin bon, bref, ils sont contents de se retrouver. Et puis tout d'un coup, l'un d'entre eux commence à suffoquer. Il n'arrive plus à respirer.
On pense qu'il a avalé de travers, quoi.
On pense qu'il a effectivement avalé de travers et on l'allonge sur la table. Et là, tout d'un coup, sa poitrine se soulève, il y a une gerbe de sang qui gicle sur les gens qui se trouvent autour de lui, et là on entend une espèce de comme ça, je le fais relativement mal.
Pas mal.
Et on voit une espèce de créature sortir de son thorax et tout bousculer sur la table pour disparaître. C'est la naissance du bébé alien.
Oui, alors l'acteur savait forcément ce qui allait se passer.
Oui, il
savait. Mais les autres, ceux qui participaient à la scène.
John Hurt savait ce qui allait se passer parce qu'en fait, on lui avait construit. Il était allongé, si vous voulez, avec son corps vertical sous la table, ouais. Alors que horizontalement sur la table, on avait mis une fausse poitrine avec tout un tas de choses à l'intérieur. C'est une poitrine garnie, si vous voulez. Et les acteurs, donc, se sont mis autour de John Hurt. Ridley Scott leur a dit, venez, on va tourner quelque chose, ça va être très très bien. Regardez, vous voyez, bon, il y a une fausse poitrine, etc. Mais vous inquiétez pas, on va faire un truc, ça va être intéressant. Et attention, 3, 2, 1, 0, action. Et là, on fait exploser la poitrine. Il y a une gerbe de sang qui atterrit sur les différentes actrices qui sursautent parce qu'elles ne sont pas du tout au courant. Et ces réactions instinctives d'effroi, elles ont été captées par Ridley Scott de cette manière.
Mais une prise.
Avec une seule prise.
Et ce petit animal, vu que vous êtes le grand Manitou des effets spéciaux, ce petit animal, cet alien qui sort de la poitrine, il sort vraiment au moment du tournage ou on l'a ajouté après?
Alors il y a un effet de montage, puisque ouais. Dans un premier temps, il y a un technicien qui soulevait la fausse poitrine, la fausse cage thoracique sous la table. Ouais. Évidemment, on a ajouté un effet de craquement dans le film pour que ce soit encore plus horrible, avec des projections de sang. Et ensuite, la petite marionnette qui court, qui gambade joyeusement sur la table, elle a été construite par un technicien qui s'appelait Roger Dickens. C'était une petite marionnette en latex avec une petite mâchoire articulée et une petite queue dans laquelle il faisait passer un peu d'air.
Toute gluante.
et la grande créature, à l'époque, donc on est, je le rappelle, en 79, elle est réelle. Et il faut un homme à l'intérieur pour lui donner vie. Et là aussi, il y a une histoire, il y a une anecdote à raconter. Comment Ridley Scott a-t-il trouvé l'homme parfait pour animer la créature, pour animer Alien?
Alors Ridley Scott m'a raconté cette histoire, et c'est vrai qu'il l'a raconté avec beaucoup d'humour. Il se trouvait dans un bar à Londres, et tout d'un coup, il aperçoit de l'autre bout du bar un étudiant nigérien, immense, qui mesure plus de 2 mètres. 2 mètres 8 exactement. Et alors, il est évidemment un peu gêné à l'idée de l'aborder en lui disant « Tu aimerais faire du cinéma ?» et donc, n'osant pas lui dire ça, il envoie un assistant qui va lui dire « Est-ce que vous aimeriez faire du cinéma ?» Mais pour Ridley Scott, etc., il explique les choses. Mmh. Et finalement, cet étudiant, qui s'appelle Bolaji Badejo, va devenir le monstre d'Alien, et c'est sur lui qu'on va poser cette combinaison en latex noir, et surtout cette tête, cette énorme tête qui dépasse à l'avant et à l'arrière, avec le système de mâchoire mécanique dont on parlait auparavant. C'est une tête assez lourde quand même. Je crois que quand elle a été terminée, la version la plus lourde, celle avec les mécanismes, pesait près de 10 kilos. Et donc, il fallait que cet étudiant fasse très attention quand il était dirigé par Ridley Scott et qu'il jouait le rôle de l'alien, parce que potentiellement, avec l'effet de levier de cette grande tête, s'il faisait un défaut mouvement, il pouvait carrément se briser la nuque. Donc, il fallait faire très, très, très attention et toujours garder ça présent à l'esprit. Et on a, évidemment, pour les scènes où il bouge le plus, fabriqué une version allégée de la tête qui lui permettait de limiter les risques.
Pascal Pinto, il y a une autre scène étonnante dans Alien, c'est la scène de la découverte des œufs. Alors moi, j'ai un souvenir d'une buée bleue et de gouttes d'eau qui remonte, c'est ça? C'est bien de cette scène?
Oui, voilà. Alors c'est le moment effectivement où les astronautes explorent le vaisseau.
Il y a de la fumée aussi.
Le vaisseau extraterrestre dans lequel sont stockés des dizaines, des centaines d'œufs. Et en fait, sur le plateau, Ridley Scott a fait diffuser un fumigène, une machine à fumer qui était, je crois, louée à un groupe de rock. Et il a utilisé des lasers qui tranchaient la fumée pour produire ces espèces de volutes assez étranges. Et ça a donné ce côté très mystérieux d'un voile lumineux qui semble recouvrir les œufs, comme pour dire « Ah, dès que vous allez passer cette limite, figurée par l'espèce de pellicule lumineuse, les œufs se mettent à détecter votre présence.
Ouais. » Et donc, on le disait, il y a 40 ans d'histoire du cinéma avec la saga Alien et donc des effets spéciaux. On peut les voir évoluer au fur et à mesure que les films, qui d'ailleurs ont été réalisés par quelques grands cinéastes, hein. Il y a eu James Cameron,
oui,
il y a eu Jean-Pierre Jeunet.
Oui, tout à fait.
Alors, en matière d'effets spéciaux, qu'est-ce qui est marquant dans ces différents films?
Alors, je trouve que celui un des plus marquants de tous, c'est celui de James Cameron, parce que James Cameron a été lui-même superviseur des effets spéciaux. Il a travaillé à une époque pour Roger Corman, qui était le roi des séries B, qui était capable de tourner 4 films en même temps, sans que les techniciens sachent qu'ils étaient en train d'être payés une fois pour 4 films, ni les acteurs d'ailleurs. Et donc, il a appris ce métier par lui-même, et il connaissait toute la panoplie des trucages, donc il en a profité pour... D'abord pour avoir une idée formidable qui est pour cette suite d'Aliens qui s'appelle tout simplement Aliens, de se dire mais qui a pondu les œufs? Et donc, en se posant cette question toute bête, c'est lui qui a fait le design de la reine alien, qui a été construite par quelqu'un qui s'appelait Stan Winston, un grand maquilleur que j'avais rencontré aussi, et qui était une marionnette géante, à l'intérieur de laquelle il y avait deux personnes qui animaient, pour l'un, le grand bras droit de la reine alien et son petit bras droit, puisqu'elle elle a quatre bras, mmh. et l'autre personne, également suspendue à l'intérieur de la marionnette, par des câbles, animait les bras de l'autre côté.
Merci beaucoup, merci Pascal Pinto. Je rappelle le titre de votre livre, de votre Bible des effets spéciaux, deux siècles d'histoire au pluriel, et c'est aux éditions Bragelonne.
Merci beaucoup à vous.
Vous écoutez RTL.